Radio Caravane.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Les acrobates de l'audio.
Les acrobates de l'audio.
Bonjour à vous, merci de m'inviter dans cette première interview. Donc je m'appelle Barbara Janot.
Enchantée.
Je travaille pour des compagnies depuis 2009. Et à la Grainerie, pour des compagnies qui sont résidentes à la Grainerie depuis 2016. Donc j'accompagne actuellement deux compagnies, une compagnie de cirque et une compagnie d'art de la rue. Donc la compagnie de cirque, c'est une compagnie de La Réunion que j'accompagne au travers du bureau de production Acolyte. Et la deuxième compagnie, c'est la compagnie d'Elle, qui est une compagnie donc des arts de la rue, une compagnie féministe qui amène le cirque dans l'espace public. Voilà. Et donc, du coup, j'ai deux bureaux. J'ai un bureau d'un côté de la mezzanine et un second bureau de l'autre côté de la mezzanine. Donc, je prends mon petit clavier, je le déplace quand je vais travailler d'un bureau à l'autre. Donc, j'essaie d'avoir des jours un peu condensés, mis ensemble, pour ne pas passer toute ma semaine à faire des allers-retours d'un bureau à l'autre. Du coup, je suis pleinement à la Grainerie, du lundi au vendredi, sauf le mercredi, où j'interviens à l'université sur des licences, sur tout ce qui est métier du spectacle, l'organisation du spectacle, les réseaux, comment on crée, comment on vend, comment on communique, comment ça se passe en fait, comment ça se passe quand on est un jeune artiste, qu'on devient intermittent, enfin voilà, tout la globalité en fait du fonctionnement du secteur. Et le reste du temps, je suis à la Grainerie.
D'accord. Quel est votre métier ?
Mon métier, c'est chargé de production. De façon réelle et dans les faits, j'ai plein de métiers. Parce que la production, elle implique aussi de traduire ce qu'on appelle le propos artistique, c'est-à-dire les intentions de l'artiste, de la compagnie, et qui vont ensuite transformer en spectacle. Donc de traduire le propos artistique pour qu'il soit visible de suite, et que des programmateurs, donc des directeurs de théâtre, se reconnaissent dans ce propos-là rapidement, dès les premiers mots, dès les premières phrases, quoi. Voilà. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a aussi une grande part de communication autour de l'image, toujours en relation avec les artistes eux-mêmes, hein, qui sont quand même premiers propriétaires de leur image, enfin les seuls d'ailleurs, les détenteurs de cette image. Mais du coup, il y a une grande aide là-dessus, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Et ensuite, il y a tout ce qui est de travailler en amont pour qu'un spectacle qui va bientôt exister puisse aussi exister physiquement dans des lieux de présentation et des lieux de travail, ce qu'on appelle des résidences de création, où en fait la compagnie va être accueillie dans un lieu, va pouvoir travailler pendant quelques semaines avec tous les interprètes pour petit à petit bâtir, en fait, bâtir le spectacle, quoi, comme on bâtit une maison. Pierre à pierre, avec des parties prises, avec des envies, des illusions, des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps en fait, parce qu'il y a plein de phases de tests. Donc voilà, donc moi mon travail aussi c'est ça, c'est de les accompagner à trouver ces lieux-là, à trouver des partenaires qui vont avoir un regard bienveillant sur le travail, qui ne vont pas juger le fait que on est en travail. Donc bien entendu, comme c'est en travail, c'est pas fini, et comme c'est pas fini, c'est pas un spectacle, et comme c'est pas un spectacle, c'est pas forcément bien en fait au départ. Mais ça veut pas dire que ça va pas être bien au final, c'est juste parce que là on travaille des choses, des matières, des choses qui sont pas finies, quoi. C'est comme un mur brut en béton tout moche et un mur avec une fresque en fait. La matière est la même, sauf que l'objet il est fini, quoi. Il est complet. Voilà, donc il y a tout ça, et puis la vente de spectacles, bien sûr.
D'accord, c'est beaucoup de métiers.
Oui, c'est beaucoup de missions, donc effectivement, c'est de manière précise, c'est pas un métier, mais c'est plein de métiers. Parce qu'après, on est aussi des humains, c'est-à-dire qu'on est un groupe d'humains, avec chacun ses compétences, Et chacun aussi ses carences. Et du coup, ben voilà, en fonction d'avec qui on travaille, on va peut-être avoir une part peut-être plus administrative, ou peut-être une part sur de l'informatique, ou sur de l'organisation générale. Enfin, c'est vraiment très touche-à-tout, en fait. Tu touches à beaucoup de domaines, et tu fais juste en sorte, en fait, de compléter aussi une équipe là où il y a besoin, en fait, pour que ça fonctionne et que tout le monde puisse arriver à travailler ensemble au mieux et qu'on ait des résultats, en fait. Et tout ça dans le même but, c'est que la création artistique soit vivante et donc visible.
J'aurais une question à vous poser. Quelles difficultés avez-vous rencontrées par rapport à la crise sanitaire ?
Ah, mais aucune. Non, c'est pas vrai. Aucune difficulté, tout se passe bien.
Avec qui travaillez-vous ? Quelle compagnie ?
Alors, je travaille avec la compagnie Circonflex. La compagnie Circonflex sont un couple, sont deux personnes qui habitent à La Réunion. Lui est réunionnais, c'est un artiste de cirque autodidacte, mais plein de projets, d'envie, d'énergie. Il a créé la première compagnie professionnelle à La Réunion et ils se sont rencontrés à La Réunion. Elle sortait d'une grande école de cirque, l'école de Montréal, une école qui est réputée mondialement. Mais c'est aussi des écoles dans lesquelles on apprend aux artistes du cirque à être presque des bons petits soldats. Tu vois, il y a quelque chose où voilà, il y a des lignes. Et puis c'est comme ça, ça va dans ce sens-là, avec énormément de travail tout le temps. Enfin, c'est comme des sportifs de haut niveau, en fait. Et du coup, ils se sont rencontrés à La Réunion et ils étaient, mais totalement à l'opposé, en fait. Et il y a eu une rencontre incroyable entre deux et ils ont créé leur propre compagnie. Donc ils vivent toujours ensemble, ils créent toujours ensemble. Et du coup, ça donne des spectacles qui sont toujours sur la rencontre. En fait, sur la rencontre, sur la différence, sur comment les choses elles se frottent, comment elles s'accordent, comment on se comprend, comment on se comprend pas. Enfin, voilà, c'est très beau, plein de poésie. Et eux, ils sont très beaux aussi. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui émane d'eux sur le plateau, enfin sur la piste, puisqu'on parle de cirque, qui est vraiment très chouette. Donc c'est voilà, c'est la compagnie Circonflex avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Donc je travaille avec eux depuis un an. Donc comme je vous disais tout à l'heure, au sein du bureau Acolyte, qui est un bureau de production. Et depuis janvier, j'ai été recrutée par une seconde compagnie qui s'appelle donc la Compagnie d'Elle, qui est une compagnie féministe, qui a souvent un travail très noir, en fait, très sombre, parce que autour du féminicide, autour de violences faites aux femmes. Donc on est sur des sujets avec lesquels on peut difficilement rire et donc là elle travaille il y a Elle Antoine, on est directrice, et là elle travaille sur une nouvelle création qui s'appelle Liesse, qui traite des liesses en règle générale, donc les carnavals, les noces, les troisièmes mi-temps sportives, tous ces moments où en fait l'humain déborde, se dépasse, part dans autre chose. Donc ben là aussi, on est sur des moments qui sont parfois dangereux pour les femmes, qui sont souvent dangereux pour les femmes. Mais donc voilà, donc le spectacle est encore en création, hein, je peux difficilement en dire beaucoup encore. Sauf que de cette chose aussi très noire, elle arrive à faire sortir des moments hyper drôles, en fait. Donc mais on est toujours un peu entre les deux. C'est pas de la grosse rigolade. On n'est pas là pour se divertir, en fait. Et en même temps, on passe d'un moment où on rit, où on sourit, parce qu'on est face à une situation un peu cocasse, ou qui nous rappelle à nous-mêmes des choses qu'on a vécues. Et puis on repasse sur quelque chose de beaucoup plus sombre, quoi, de beaucoup plus profond. Donc voilà. Donc ça, c'est le travail en cours que j'ai découvert, dont j'ai découvert un peu plus de matière là, la semaine dernière, puisque la compagnie était en résidence. La prochaine sortie, alors qui ne sera pas une sortie publique, le 30 avril, puisqu'il y aura une dernière résidence de création du 12 au 30 avril. Donc là, en fait, on a des premières. On ne sait pas quand, mais peut-être que ça peut. Peut-être que ça va faire l'objet d'une prochaine question, donc voilà, je m'arrête.
Alors, je reviens à la question tout à l'heure qui a été abordée. Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans votre métier depuis le début de la crise sanitaire ?
Ah ben voilà, oui, justement, on est en plein dedans. Ben la difficulté, c'est la même que tout le monde, c'est-à-dire que c'est des dates qui s'annulent, qui se reportent. La vraie difficulté, c'est que ce sont des moments perdus. Et c'est-à-dire que j'ai jamais autant travaillé en fait, que depuis le début de la crise sanitaire. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait que des dates s'annulent et se reportent, ça demande pas deux fois plus de travail, mais en tout cas, le travail qu'on a fait pour que cette date existe, ben ce temps-là, il a été passé, et on doit passer un temps supplémentaire sur une même date, mais qui, du coup, se reporte une fois, se reporte une deuxième fois, se reporte une troisième fois, et à chaque fois, on y repasse du temps, on y repasse du temps, on y repasse du temps. Alors, il y a certains lieux programmateurs avec qui ça se fait assez, de façon assez fluide, parce que voilà, ils en ont pris leur parti, et puis qu'ils essayent de rester quand même un peu léger par rapport à... Léger, c'est pas le terme. En tout cas, souple par rapport à la situation. Et il y en a d'autres pour qui c'est terrible, en fait. Parce qu'ils sont une façon de travailler plus rigide, on va dire. Donc c'est aussi, à contrario, des gens très droits qui, quand ils donnent leur parole, la tiennent. On est sur des gens qui rigolent pas, quoi, qui sont là, c'est sérieux. Sauf que du coup, en fait, ils sont tellement sérieux que en fait ils se retrouvent face à des murs et que c'est hyper douloureux, donc ça retombe bien évidemment sur les compagnies. Communication entre la compagnie et le lieu devient difficile, devient un petit peu tendue face à des gens qui sont vraiment à fleur de peau, où tu sens que la moindre parole maladroite, mal tournée, les fait péter un câble, en fait. Il y a une détresse humaine autour de moi, chez les gens avec qui je travaille, qui est très forte. En fait, c'est vraiment rude. Moi, j'ai la chance de travailler pour deux compagnies qui sont conventionnées, c'est-à-dire qu'elles sont reconnues, on va dire, par le ministère de la Culture, et du coup, elles ont des financements qui viennent des institutions, de l'État, donc via le ministère de la Culture, via la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, par la région, le département, la ville, enfin voilà, elles ont des financements qui arrivent, et du coup, elles ne vivent pas que par la vente des spectacles. Et donc voilà, du coup, pour moi, ça a moins de conséquences, en fait, sur on va dire, mon état émotionnel dans le travail. Voilà, je connais d'autres compagnies qui ne vivent que sur la vente des spectacles, que sur la diffusion, et pour qui c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, ce sont des compagnies qui, depuis un an, n'ont pas eu une seule rentrée d'argent, ou extrêmement peu. Il y a eu un petit moment à l'été d'ouverture, un petit peu d'ouverture de vannes où il y a eu des dates qui ont été jouées, mais c'est des chiffres d'affaires qui sont divisés par 10, quoi. En l'occurrence, je travaillais l'année dernière pour une compagnie qui s'appelle Les Acrostiches, qui est dans ce cas de figure-là, et Les Acrostiches ont fait Avignon en 2019, et c'était génial, c'était un énorme succès. Il y a eu plein de dates, enfin voilà, Avignon, c'était à l'été 2019, donc bien évidemment, les dates n'étaient pas pour de septembre 19 à juin 20, parce que les programmations étaient bien sûr déjà bouclées, mais il y avait déjà quelques dates qui démarraient, en fait, à partir de janvier-mars 2020, et puis ça allait jusqu'à l'été 21. Toutes ces dates-là, en fait, ont été annulées. Et le problème, c'est qu'en fait, comme ces dates-là ne se tiennent pas, n'ont pas lieu, la compagnie, elle n'a pas non plus de visibilité. Chaque date, chaque représentation où la compagnie se produit, il y a des programmateurs qui viennent voir. Et donc, à chaque fois que la compagnie joue, ben en fait, ça la fait rejouer encore ailleurs ensuite. Et ça fait boule de neige. Et le fait que les dates soient supprimées, il n'y a plus aucune visibilité pour la compagnie. Et là, c'est extrêmement violent, parce que les finances de la compagnie ne sont liées que à la diffusion, donc à la vente des spectacles.
D'après vous, les fermetures des salles de spectacle sont-elles justifiées ? Dans quelles conditions pourrait-on les rouvrir ?
C'est une question vaste et c'est une question politique. Donc il faut que je fasse très attention à ce que je vais répondre. Alors, la fermeture des salles, pour moi, en mon sens, de façon très personnelle, moi, Barbara Jeannot, elle se justifie à partir du moment où tout est fermé, où on est en confinement total, où on ne peut sortir de chez soi que pour aller acheter son pain, ses légumes, et de quoi manger, aller chez le médecin, aller à la pharmacie, point final. À partir du moment où on assiste dans les hypermarchés, dans les rues piétonnes, à des attroupements massifs de gens qui sont collés les uns aux autres à la caisse pour être sûr qu'on ne vole pas leur tour. Et j'ai beaucoup de mal à accepter cette fermeture des salles, de façon évidente. Mais j'irais même plus loin, c'est-à-dire que j'ai du mal à accepter cette fermeture des salles, parce que pour moi, elle ne se justifie que par une idéologie qui veut que le service public disparaisse. C'est-à-dire qu'on ferme les salles de spectacle, on ferme les musées, on ferme tout ce qui aide les gens à réfléchir, simplement parce qu'on ne veut pas investir dans l'hôpital. Et depuis cette crise sanitaire, il n'y a pas eu un seul lit de créé. Il y a eu des belles paroles, il y a eu des hôpitaux temporaires, des hôpitaux de campagne qui ont été ouverts et refermés, ou pas refermés, mais qui sont vides, parce que de toute façon, c'est des cases vides dans lesquelles il n'y a aucun moyen de mettre en place. Et que tout ça, voilà. Et donc, pour moi, c'est incompréhensible, c'est une aberration. C'est-à-dire que j'ai juste... Tout ce que je vois, c'est que effectivement, on n'est pas du même bord politique, ce gouvernement et moi, et qu'on ne le sera jamais. Parce que pour moi, la solution, elle était simple, peut-être pas, mais en tout cas, en investissant massivement dans l'hôpital public, on pouvait vraiment aider à ce que les personnes fragiles, les personnes âgées, soient prises en charge rapidement pour enrayer les complications de cette maladie, qui peut effectivement être très grave pour certains. Et en fait, on confine une population entière sous prétexte de protéger nos anciens et nos personnes fragiles, alors qu'en fait, c'est pas... Moi, mon rôle en tant que citoyenne, il n'est pas de protéger les personnes fragiles, il est de payer des impôts pour développer un service public de qualité. Donc, je peux pas être d'accord avec ça.
Donc, avec tout ça, qu'espérez-vous pour l'avenir ?
Qu'est-ce que j'espère pour l'avenir ? J'espère pouvoir continuer à travailler avec les deux compagnies avec qui je travaille aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment l'impression que je travaille enfin avec des gens qui me correspondent, que j'ai beaucoup d'amour pour leur travail, et j'ai besoin de ça, en fait, pour pouvoir bien parler d'eux, pour pouvoir faire envie. Donc j'espère que ces deux collaborations-là vont continuer, voilà, sachant que la collaboration, elle est aussi avec le bureau Acolyte, avec des filles qui sont topissimes, elles sont génialissimes. J'ai une grande admiration pour elles, je les trouve extraordinaires. Et alors, ce qui est super, c'est qu'elles me trouvent extraordinaire aussi, alors que des fois, moi, je me sens un peu nulle. Et du coup, voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui te rend hyper fort, en fait. Quand tu travailles avec des gens que tu trouves extraordinaires et que, en fait, eux te trouvent plus extraordinaires qu'eux-mêmes. Voilà, donc j'espère que ça va continuer.
D'accord, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions.
Et bien, merci à vous.